16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition d'Historiquement vôtre. Aujourd'hui, on chausse Santiago, on monte dans la limousine. Direction Vegas, baby. Alors Mathieu, bonjour, vous montez ?
Ça dépend où, dans la limousine, ça d'accord. Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui Stéphane est excité comme une puce puisque c'est le point commun de nos trois personnages.
Oui, ils sont passés à Vegas et ils sont restés à Vegas.
Clin d'œil à la célèbre devise de Stéphane, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas.
Fouet, fessé, oui. Menottes, oui. Cuir, oui, latex,
oui.
Et bottes.
Oui, justement Stéphane, c'est toute la magie de ce lieu mythique, on ne rentre jamais dans le détail de ce qu'on y fait vraiment.
Vous avez raison, nous allons plutôt détailler ce qui ont fait nos personnages. À commencer par Benjamin Siegel, dit Bugsy. Ah. Rien à voir avec Stummy Bugsy. Hein.
Dommage.
Mon papa à moi est un gangster.
Mon papa à moi est un gangster. Mais mets-moi la suite. Il fait partie du ministère. Ah, c'est toute ma jeunesse, ça.
Ah, oui, je
comme
ça.
Quoi, j'ai vraiment aimé les trucs pourris.
Drôle parce que
ah oui, ça repart, ça ressort.
Revient
et
tout
je peux
de
pas
suite.
Le, je peux pas
mais,
le rentrer.
Oui, oui. Alors, lui, ce n'est pas son papa, lui, qui était gangster, mais bien lui-même, un mafieux notoire qui fréquentait le tout Hollywood et qui fut le premier à imaginer le Las Vegas que l'on connaît. Il a fait sortir des sables du désert son premier grand hôtel casino. Avant de vite finir, 6 pieds sous terre,
oh
vous verrez. Eh oui, 6 feet under. Puis, la terre, lui, elle est venue la cultiver en premier. William Bringer s'est passé à Vegas avec ses hommes pour s'y installer et convaincre les peuples présents d'adhérer aux idées de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Oui, enfin, c'est comme ça qu'on appelle les Mormons.
Les Mormons.
Absolument. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un champion qui s'est installé à Vegas pour son travail.
Mais oui, son travail, vous allez voir, n'est pas tout à fait comme le nôtre, Stéphane, puisque Francis Ngannou est une star de MMA.
Zéro tracas, zéro blabla.
Vous le faites bien, vous devriez postuler. Non, l'autre MMA, Stéphane, le free fight, cette discipline de combat où il n'y a quasiment aucune règle. Notre Francis est une légende de ce sport, son surnom, un peu comme si Emile Louis avait tenté la carrière américaine, The Predator.
Ah. Propos de prédateurs. Avec nous, comme chaque jour, nos légendes à nous. Ce sont nos chroniqueurs, celles qui nous entraînent d'abord dans l'intimité de l'histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane. Dites donc, vous parliez de surnom à l'instant, Mathieu. Quel est le surnom de Las Vegas? Vous le connaissez? Ça a même donné le nom d'une série télé.
Sin City.
La ville du péché, la ville du vice. Je vais donc évoquer pour vous naturellement la mère Seton. Vous connaissez cette célébrissime stripteaseuse de Las Vegas?
On l'a jamais effeuillé nous-mêmes.
D'accord.
Hein.
Bah, oui, c'est normal parce que la mère Seton n'est pas une stripteaseuse. C'est la première sainte catholique née sur le sol américain.
Oui. Oh non, la déception là. Vous pouvez pas nous parler d'une stripteaseuse quand même en plus, en bonus.
Non, c'est pas prévu.
D'accord. Avec nous également David Castel-Lopez. Alors, une des spécialités d'Amérique, évidemment, on va remonter aux origines.
Tout à fait. Des food trucks. Ouais. Les food trucks, cette chose qui est vraiment... C'est, peut-être ça retombe un tout petit peu, mais ces 10 dernières années, c'était quand même...
Il y en a toujours pas mal,
oui,
des food trucks.
Même, ouais.
Mais vous savez, on a connu ça dans nos campagnes quand il n'y avait
vrai.
Pas de...
C'est vrai.
Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Mais moi, j'ai connu ça à la campagne.
Des camions à frites.
Des camions, pas seulement à frites.
Non, des épiceries.
Des épiceries ambulantes,
la boucherie.
Qui venaient une fois par semaine ou deux fois par semaine.
Mais il y a encore des campagnes en France où il y a ça. Ils s'annoncent en klaxonnant dans le village.
Moi, le petit village où je passe une partie de mes vacances d'été en Corse, eh bien, il y a le boucher qui vient dans son petit camion, il arrive, il klaxonne, on vient acheter sa côte de bœuf. Évidemment, mais moi je suis toujours proche de cette
côte de bœuf au fin fond de la Corse.
Puisque vous parlez de viande, on va retrouver Olivier Pouls avec
la viande des grisons. Moi j'ai longtemps cru que les grisons c'était une variété d'animal quand j'étais petit, je croyais ça. Je croyais que c'était de la viande de
grisons. T'as pas tout de suite été balèze en
géographie. Oui, en géographie. Graubünden, c'est les grisons.
Un canton suisse. Du sud-est de la Suisse.
Ah, tout ça est assez prometteur, d'autant que nous jouerons également à Bern to be Alive, le quiz qui nous permet de départager chaque jour Clémentine de Stéphane. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage qui est passé et resté à Vegas.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Là-bas, l'argent et le champagne coulent à flot. C'est le temple du jeu et du sexe tarifé aussi.
Avec Michel Alliomari.
Ah non, Stéphane, non, sans Michel. Vous devez confondre avec une autre soirée.
Non, mais la pauvre.
Ce temple. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vous, Stéphane. Vous dites comme ça, parfois, vous faites référence à des amis à vous, on ne sait pas pourquoi.
Non, vous prenez des sons.
Ce temple, lui, en a bâti l'une des toutes premières pierres. Pour une poignée de dollars, Stéphane Bern nous raconte un gangster moderne, Benjamin Siegel.
Il y a du beau linge ce soir au 250 Delphin Drive, sur les hauteurs de Beverly Hills à Los Angeles. Clark Gable et Cary Grant discutent au salon tandis que Fred Astaire et Gene Harlow batifolent dans la piscine au moment où Gary Cooper arrive et salue le propriétaire de la luxueuse villa de presque 1000 mètres carrés où célébrités et anonymes profitent de ce bel été 1940 pour faire la fête. Contrairement à ce que la liste de ses prestigieux invités peut laisser penser, le maître des lieux n'est pas un illustre acteur, ni même un producteur de l'ombre. Non, si l'on connaît aujourd'hui le nom de Benjamin Siegel, ce n'est pas pour le nombre de films dans lesquels il a joué, puisqu'il n'y en eut aucun, mais plutôt pour le nombre de personnes qu'il a tuées. Il y en eut 12 au moins. Benjamin Siegel n'est donc jamais apparu à l'écran, pourtant... C'est un sacré personnage. Il est un voyou, un gangster, l'un de ces princes de la pègre que le Hollywood de son époque a déjà maintes fois mis en lumière, l'un de ceux qui ont nourri l'imaginaire collectif et dont les chapeaux, les costumes bien taillés, bagouts et gâchettes faciles incarnent à eux seuls le mythe de la mafia américaine. Ce soir-là, sans connaître tous les détails, les invités savent bien que leur hôte trempe dans les plus louches et illégales affaires. D'aucuns lui ont même déjà prêté de l'argent et se sont bien abstenus de réclamer l'or du temps. La réputation de Siegel est à même de calmer les ardeurs des créanciers, fussent-ils les plus célèbres. Et après tout, Benjamin Siegel est un hôte parfait. Beau, jouisseur et généreux, il amuse tout le monde et donne depuis quelques années les plus belles fêtes de Los Angeles, alors pourquoi s'en priver? Mais comment un malfrat est-il devenu la coqueluche d'Hollywood, me direz-vous?
Mais je vous le dis, Stéphane, je vous le dis, comment un malfrat est-il devenu la coqueluche d'Hollywood? Et si vous voulez, je peux même me taper sur la cuisse pour joindre le geste de surprise à la parole. Ah!
Eh bien, il doit ça à son ami d'enfance, George Raft, qui a fricoté dans sa jeunesse avec les mauvais garçons de la pègre new-yorkaise avant de devenir un acteur célèbre. Et si George a choisi les lumières du musical et du cinéma, son copain Benjamin a d'abord préféré le monde du crime à celui des projecteurs. Benjamin Siegel est né en 1906 dans le populeux quartier de Williamsburg à New York. Fils d'immigrés juifs, il abandonne rapidement l'école et comprend tout aussi rapidement que des journées de labeur à l'usine sont moins efficaces que l'économie parallèle pour gagner sa vie. Tout jeune, il traîne alors avec les gamins de son quartier avec qui il constitue une petite bande qui s'occupe de racketter livreurs et commerçants. Siegel, en compagnie de son meilleur ami, éternel associé, Meyer Lansky, grimpe vite les échelons du crime et s'organise en une mafia juive que l'on nommera plus tard la Yiddish Connection. Et le 17 janvier 1920 sonne le réel début de leur fortune. C'est le jour où la prohibition devient effective aux États-Unis. La consommation, la fabrication et la vente d'alcool sont désormais interdites. Une mesure de santé publique qui va faire les choux gras de la mafia. Siegel et Lansky ont le sens des affaires et deviennent les trafiquants d'alcool parmi les plus importants de la côte Est. Leur petite entreprise grandit dans les années 20 en même temps que Benjamin développe d'autres cordes à son arc. De tempérament que l'on qualifiera de sanguin, il peut vite partir dans des crises de colère si quelque chose lui déplaît. C'est de ces manières quelque peu erratiques qu'il tire le surnom de Bugsy, qui le compare à un insecte nerveux. Surnom que tout le monde connaît, mais que personne n'oserait employer devant lui, de peur de le mettre dans une terrible et violente colère. La violence, Pugsy, ça ne lui pose aucun problème. C'est pour cette raison qu'il devient un brillant exécutant des basses œuvres de la mafia. Molester, lyncher ou tuer les traîtres et les mauvais payeurs devient sa spécialité. Siegel devient très riche et très influent au sein de la pègre, où toutes les entités ethno-culturelles se réunissent dans un grand syndicat du crime qui régit toutes les affaires de la côte Est. Mais la prohibition prend fin et la mafia doit développer de nouveaux marchés. À partir de 1933, Pugsy commence à se rendre régulièrement à Los Angeles pour suivre et implanter quelques lucratives activités. Il s'y installe définitivement en 1937, d'autant qu'à New York, la police et le FBI ont tendance à le coller de près. Il développe toutes sortes d'affaires, de la prostitution à la drogue, en passant par le racket, notamment celui des grands studios de cinéma dont il infiltre les syndicats et surtout les jeux d'argent interdits en Californie comme dans la quasi-totalité du pays. À Los Angeles, Siegel gère des casinos offshore sur des navires voguant au-delà des eaux territoriales, là où la loi ne s'applique pas. Dans les années 40, déjà très riche et peut-être désireux de stabiliser ses affaires, Pugsy lorne de plus en plus vers le Nevada voisin, seul état à avoir légalisé les jeux d'argent, en même temps d'ailleurs que la prostitution. Las Vegas n'est encore qu'une bourgade où quelques salles de jeux et hôtels tiennent plus du saloon poussiéreux que du complexe luxueux. La clientèle y est essentiellement celle de la base militaire toute proche ou celle des ouvriers qui viennent perdre leur salaire gagné à la sueur de leur front sur le chantier du barrage Hoover sur la rivière Colorado. Rien de très glamour jusqu'ici. Mais Bugsy Siegel a un plan. Certains disent même une vision. Il veut implanter une sorte de Monte Carlo au milieu du désert. Il veut magnifier les tripots et hôtels de passe pour édifier un glorieux temple dédié au plaisir du jeu, de l'argent et du divertissement pour les grands. Le pari est audacieux et risqué, mais Bugsy va s'en donner les moyens. Benjamin Siegel fait l'acquisition d'un vieux casino miteux dans le centre de Las Vegas. Mais les autorités municipales goûtent peu son statut de gangster notoire et l'empêchent de développer l'affaire. Alors il va au-delà des limites de la ville. À l'époque, il n'y a presque rien, mais Bugsy voit grand. Il s'associe avec un tenancier de club de Los Angeles qu'il s'évertuera à évincer pour faire sortir de terre le plus beau des hôtels casinos. Un golf, des jardins, des piscines, un spa, du cuir au mur et de la moquette au sol, des miroirs partout, des tables de jeu et des machines rutilantes. Rien n'est trop beau pour l'établissement qu'il baptise le Flamingo. Siegel installe d'ailleurs de véritables flamants roses dans les jardins. Sur les 93 chambres, il se réserve la plus belle avec des vitres pare-balles et une échelle cachée dans le mur afin de pouvoir s'enfuir par les sous-sols. On ne sait jamais. Le FBI, qui a accumulé 2000 pages de notes sur son cas, pourrait à tout moment débarquer. Le 26 décembre 1946 a lieu la grande inauguration et il y a du monde, d'autant que Bugsy a mobilisé ses amis de Hollywood pour créer l'événement. Le vieux copain George Raft est bien entendu présent aux côtés d'autres comédiens et actrices. Les Andrews Sisters assurent un concert. Le fameux comique Jimmy Durante est le maître de cérémonie. On se presse tellement qu'un embouteillage se crée à l'entrée. Problème. Les travaux de l'hôtel dont Bugsy n'a pas arrêté de changer les plans ont pris du retard et les chambres ne sont pas prêtes. Les clients vont donc dépenser leurs gains ailleurs puisqu'ils ne peuvent rester dormir sur place. En 2 semaines, le casino assume 300 000 dollars de pertes. Certains clients débiteurs disparaissent dans la nature et comble de l'ironie, Siegel aux abois demande pour les retrouver l'aide du FBI qui ne fera pas grand-chose. On raconte que même les flamants roses ne résistent pas et meurent sous la chaleur du désert.
Oh non.
Face à tant de pertes, Bugsy est obligé de fermer le casino au bout de 6 petites semaines. Il doit beaucoup d'argent à ses comparses de la mafia qui commencent à se faire pressant. Quelques mois plus tard, en mars 1947, l'hôtel est enfin prêt. Le Flamingo rouvre et les affaires repartent sous de bons auspices. Mais il est déjà trop tard. Même si l'on ne sait ni précisément pourquoi ni par qui, il semble que ce soit bien la mafia excédée par ses dettes qui commandite l'assassinat de Bugsy. Il prend 4 balles dans la tête le 20 juin 1947, alors qu'il se repose dans une villa de Los Angeles. Le Flamingo sera pourtant un succès et un modèle pour les complexes qui ouvriront sur ce qui est désormais le Strip, principale artère de Las Vegas. Benjamin Siegel avait donc eu du nez. Dommage qu'il n'ait plus sa tête pour en profiter.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Benjamin Bugsy Siegel, nous sommes Stéphane avec un historien qui connaît les États-Unis et son économie sur le bout des doigts. Bonjour Tristan Gaston Breton.
Bonjour.
Bonjour Tristan Gaston Breton. Vous êtes intéressé à Benjamin Siegel et à Las Vegas pour les Échos. Je viens de le dire, Benjamin Siegel avait du nez quand on voit ce qu'est devenu Las Vegas. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il a tout de suite compris qu'il y avait un business à imaginer et surtout à faire là-bas.
Il avait du nez, il a compris que le jeu était probablement une des clés de son avenir à lui et de l'avenir de la mafia d'ailleurs. Et donc, il a eu du nez. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs, hein. C'est pas le sujet, mais vous retrouvez ça aussi à Macao. C'est-à-dire que cette possibilité des mafias d'investir dans l'univers du jeu est une constante des mouvements mafieux. Donc oui, il a du nez. Ça lui coûtera la tête, comme vous l'avez dit, mais effectivement, il a du nez au départ.
Et justement, comment Bugsy Siegel, il parvient à rentrer au sein de cette mafia? Il se fait repérer à la base pour son côté sans foi ni loi ?
Il se fait repérer, vous savez, vous avez un petit peu évoqué son histoire. Il naît en 1906, famille pauvre, il est laissé à lui-même. Comme il est laissé à lui-même, il rejoint très vite un gang, une espèce de petit gang de la mafia juive. Il y en a d'ailleurs beaucoup des gangs. Il y a des gangs irlandais, il y a des gangs italiens, il y a des gangs juifs. Et donc, comme c'est un racketteur hors pair, il est repéré et il va monter lentement mais sûrement, d'ailleurs plutôt même assez vite d'ailleurs, dans ce qu'on appelle la Yiddish Connection, qui après se rejoindra la mafia italienne. Mais oui, c'est parce qu'il est violent, parce qu'il n'a peur de rien, parce que c'est un racketteur formidable, parce qu'il n'hésite pas à menacer et même à tuer. Hein. On dit qu'il a tué son premier homme à 13 ans, oui. Qu'en fait, il monte très vite dans la hiérarchie de la mafia.
Un mot justement sur la distinction. On connaît la mafia italienne, mais on connaît moins la Yiddish Connection, à laquelle il est rapidement rattaché. Ses codes sont différents des autres. C'est quoi cette Yiddish Connection ?
Ces codes, à mon avis, sont un peu les mêmes. Vous savez, l'honneur, etc., etc. La différence, c'est qu'elle est beaucoup plus informelle. C'est-à-dire que, contrairement à la mafia italienne, vous n'avez pas de vraie hiérarchie, vous n'avez pas de famille, de grande famille. C'est plutôt des agrégats de gangs qui créent leur propre business. C'est ce que va faire d'ailleurs Benjamin au départ. Qui créent leur propre business et puis qui, au fur et à mesure, fusionnent avec la mafia italienne. Mais au départ, c'est beaucoup plus des individualités qui gèrent la Yiddish Connection que des familles.
Benjamin Siegel a une belle gueule, il est dangereux, il est riche. On peut dire qu'il a tout d'un personnage de fiction, d'un héros de film.
Oui, il y a quelque chose d'assez flamboyant. Vous voyez, cet enfant sorti des rues, qui passe pour avoir une belle gueule, qui a une espèce de vie flamboyante, qui devient très très riche, qui s'installe à un moment à Hollywood, qui fréquente toutes les stars, qui se lance dans le jeu, qui crée un immense casino et qui finit avec une balle dans la tête. Voilà, oui, c'est un destin complètement hollywoodien, si on peut dire, tout à fait.
Mais puisqu'on parle d'Hollywood et de film, il est proche, je l'ai raconté, de nombreux acteurs américains. Ces derniers ne sont pas inquiets de voir des mafieux tourner autour d'eux. Ils ont l'habitude de fricoter un peu avec la mafia. Je parlais évidemment de Fred Astaire, de Gene Harlow, de Cary Grant, de Gary Cooper. Ils vont dans sa maison et ça ne les gêne pas.
Ça ne les gêne probablement pas. Vous savez que certains d'entre eux, notamment le plus célèbre, c'est Frank Sinatra, qui était un porteur de valises de la mafia, qui amenait de l'argent pour le faire blanchir. Donc ils sont, ça ne veut pas dire que tous les acteurs, bien sûr, sont liés à la mafia, mais il y a une telle flamboyance, une telle débauche d'argent, d'alcool, que finalement, ces gens-là profitent du système. Beaucoup se tiennent à l'écart prudemment. Hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils tombent dans les raies de la mafia. Certains le font, clairement. Mais oui, sans doute qu'ils sont suffisamment prudents pour ne pas aller trop loin, mais suffisamment attirés par la flamboyance de ce genre de personnage pour faire partie de leur environnement, par soif d'une vie un peu étonnante, un peu époustouflante.
Alors Tristan, vous expliquez dans votre article Las Vegas, l'empire du jeu et du vice, qu'au début des années 30, l'État du Nevada décide, afin de renflouer ses caisses presque totalement vides depuis la crise de 29, de légaliser les paris et les jeux d'argent. Le gouvernement fédéral ne se doute pas que ça va faire augmenter la criminalité ?
Mais au départ, il faut d'abord des preuves. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, le FBI va finir par accumuler des pages et des pages de dossiers. Mais au départ, vous n'avez rien. Ça relève de l'État du Nevada. Donc c'est surtout au niveau de l'État du Nevada qui se doute sans doute que ça va entraîner effectivement toute une série de trafics et de criminalités. Mais là, il y a tout un sujet qui est d'ailleurs passionnant, qui est sur le niveau de corruption des politiciens locaux, qui est très élevé aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrosés. Donc le FBI s'y intéressera très vite, mais pas tout de suite, pas au départ.
On se doute que la mainmise de la mafia est aussi plus que tolérée par la classe politique à l'époque. Comment ça se passe sur place ? La mafia contrôle tous les casinos, tous les lieux touristiques de la ville ?
Au fur et à mesure, au départ, vous l'avez rappelé, il y a très peu de casinos, hein, mais au fur et à mesure, oui. En fait, ça va surtout se développer après la Seconde Guerre mondiale, et où là, effectivement, en fait, la ville entière va être, enfin, peut-être pas à 100%, mais la quasi-totalité de la ville est effectivement tenue par la mafia, les grands casinos, les grands établissements de jeu. Il y a des intérêts politiques, c'est-à-dire que des politiciens locaux ont pris des participations, sont arrosés pour obtenir les autorisations. Enfin, c'est vraiment, on l'a appelé cette ville, vous savez, la cité du vice. Donc, c'est une coalition en fait de politiciens véreux, de mafieux particulièrement actifs, puis le monde du showbiz, tous ces gens-là finalement mangent un peu, si vous me passez l'expression, dans la même mangeoire et touchent palpent aux mêmes sources d'argent qui sont du blanchiment d'argent et voilà, donc c'est une coalition d'intérêts, hein, la ville de Las Vegas. C'est vraiment la naissance par une coalition d'intérêts de gens tous aussi corrompus les uns que les autres.
Lorsque le chantier du Flamingo à Vegas débute, Benjamin Siegel a, semble-t-il, la folie des grandeurs. On en a parlé, vous expliquez qu'il importe du sable du Moyen-Orient, des plumes d'oiseaux d'Amérique du Sud, fait poser du marbre à tous les étages. Une telle débauche de luxe, moi j'avais vu ça que chez Stéphane Bern. Le budget octroyée par la mafia ne tarde pas à exploser. Et finalement, c'est là son erreur à Siegel d'être trop flamboyant, comme Stéphane ?
Il y a plusieurs raisons. Il y a la mafia ou le syndicat du crime, comme il s'appelait lui-même, n'était pas spécialement gêné par les plumes et par les débauches. Ce qui a commencé à leur poser un problème, c'est que, bon, c'est le retard, vous l'avez rappelé, c'est l'explosion des coûts. Le syndicat du crime avait donné $1 million au départ, je crois que le budget était multiplié par 6 ou 7. Et puis surtout, c'est que Bugsy était devenu trop voyant, vous voyez, il s'agitait trop, il était violent, il menaçait les gens, donc il faisait trop de bruit. Et la mafia n'aime pas le bruit. Et donc, c'est cette raison qui a fait qu'ils l'ont éliminé à un moment.
Benjamin Siegel, j'ai raconté, se fait donc abattre en juin 1947 alors que le Flamingo rouvre ses portes en mars de la même année. Malgré son influence au sein de la mafia, on ne lui laisse pas de seconde chance. Ou peut-être il avait déjà utilisé son joker.
Il avait probablement brûlé toutes ses cartes et encore une fois, et c'est très formel, hein, les chefs du syndicat se réunissent à La Havane, qui va devenir le nouveau pôle, hein, de la mafia, avant bien sûr Fidel Castro, et là se disent ce type fait vraiment trop de bruit. Il y a vraiment un côté, ce personnage attire l'attention, il attire trop l'attention notamment des autorités, en plus il a, pardonnez-moi l'expression, mais déconné sur les coûts de construction du Flamingo, donc ça commence à faire beaucoup, il devient un et donc autant s'en débarrasser et de faire venir des gens un petit peu plus sérieux qui vont reprendre en main toute cette affaire, et ce sera Meyer Lansky, bien sûr, qui était son camarade de gang d'ailleurs au départ, hein, qui reprend la main.
Vous expliquez que sous la houlette de Meyer Lansky, la ville va en effet se développer de manière exponentielle après sa mort, avec la construction d'un casino par an dans les années 50. C'est à ce moment-là que le syndicat du crime est le plus puissant aux États-Unis.
La notion de reprise en main, si vous voulez, c'est il y a le temps des pionniers, donc c'est clair que Bugsy en fait partie. Il y a de la flamboyance, on part un peu dans tous les sens, on fait beaucoup de bruit, on s'affiche. Et à un moment, la mafia se dit, il faut passer un peu sous les radars, ce qu'elle ne fera jamais totalement, mais il faut passer sous les radars et donc mettre des gestionnaires. Des hommes qui tiennent bien les coups, qui tiennent leur boutique, qui évitent qu'il y ait trop de bruit, trop de scandales, trop d'histoires. Vous savez que Bugsy avait chassé des familles en les menaçant quasiment de mort. Vous voyez, c'était un énervé, c'était un agité du bocal, comme aurait dit je ne sais plus qui. Et donc là, on fait venir des gestionnaires. C'est très bien résumé d'ailleurs dans le film Casino, où vous voyez très bien qu'au temps des pionniers, ouais, on fait venir des gestionnaires. Des gens qui sont tout à fait attachés à la mafia, mais qui le font de manière comme des businessmen, comme des managers.
Pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui Las Vegas est encore lié à la mafia, ou alors on ne saura jamais vraiment ce qui se passe à Vegas, parce que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas?
Oui, il est probable que la mafia est toujours là. Vous savez qu'il y a eu une grande purge, il y a eu un grand ménage qui a été fait par le FBI dans les années 80. Oui, il a fallu attendre longtemps quand même, hein, les années 80. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'arrestations. Il est probable que la mafia n'est pas aussi présente que ce qu'elle était dans ces années-là, dans les années 40. Mais rien n'indique qu'elle ne soit pas toujours, qu'il n'y ait pas toujours du blanchiment. C'est même probable d'ailleurs. Mais ça se fait à bas bruit. Ça se fait à bas bruit parce que maintenant les outils du gouvernement fédéral sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus grands, beaucoup plus profondément dans les arcanes financières des organisations criminelles. Donc ça se fait à bas bruit. Mais ça existe sans doute encore.
Mais merci beaucoup Tristan Gaston-Breton d'être revenu avec nous sur ce gangster fou mais visionnaire qui a eu l'idée d'ériger un empire du vice au milieu du désert. Je rappelle votre dernier ouvrage dont nous avons déjà eu l'occasion de parler ici même, La saga des Rockefeller, paru chez Talendier. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement.
Tous les jours des 16h, historiquement, Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qu'elle est souvent la seule à connaître. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on reste aux États-Unis, loin du strip de Vegas, ceci dit, puisque vous nous présentez Elizabeth Ann Seton, la première sainte née sur le sol américain.
Elizabeth Bailey, puisque c'est son nom de jeune fille, elle avait quand même pas beaucoup d'atouts, donc puisque elle est protestante et elle est riche. Elle deviendra néanmoins, par son mariage, Elizabeth Sutton et la mère Sutton. Alors, elle est née à New York en 1774 dans une famille richissime. Vous voyez, une famille de WASP, une famille de descendants des colons du Mayflower, ou à peu près, est-ce qu'ils sont arrivés aux États-Unis à peu près au même moment, au XVIe siècle. Son père est un chirurgien très récent. Donc, quand vous êtes riche et protestante, c'est pas gagné pour devenir une sainte, sauf que elle passe son temps à s'occuper des pauvres. Vous avez lu Les quatre filles du docteur March ou vu le film. Voilà, ça devait être ça, l'enfance de Betty Bailey. Elle devait passer son temps, à la fois une existence confortable, mais beaucoup de temps à aller s'occuper des plus fragiles. Elle se marie néanmoins avec un certain William, un richissime homme d'affaires de 25 ans. Elle en a 19. C'est l'un des premier mariage de la saison. On est donc à New York, il y a beaucoup d'argent, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. 5 enfants. Mais elle n'en poursuit pas moins ses bonnes œuvres et en 1797, elle crée même la Société pour le soulagement des pauvres veuves avec des petits enfants. C'est un objet social un peu compliqué. Et sa belle famille, à un moment, va connaître des revers de fortune parce qu'on est à l'époque où il y a des attaques françaises contre les navires de commerce américains entre 1798 et 1800. Et Elisabeth et son mari, qui ont déjà 5 enfants, récupèrent les 6 frères et sœurs de William. Ils ont donc maintenant 11 enfants à élever. Bon, voilà une belle famille. Et alors là, que se passe-t-il ? Eh bien, son mari, William, chope la tuberculose. Ah, bon, non, vous voyez, quand même, c'est un chemin de croix douloureux. Alors, on lui prescrit le soleil et l'air pur italien, et comme il y a encore un peu de sous dans la famille, eh ben ils se rendent tous en Italie. En tout cas, Elisabeth, leur fille aînée, et William. Et que se passe-t-il ? Eh ben,
il meurt
au cours du séjour. Bah oui, voilà, c'est vraiment... c'est l'enchaînement. L'enchaînement
tragique.
Et on fait
quoi des 11 enfants ?
Alors, bah, écoutez, ça va pas lui l'empêcher de continuer à s'en occuper. Mais quand elle est en Italie, les partenaires commerciaux de son mari sont très accueillants pour elle, très, très entourants, très gentils, très affectueux. Et du coup, ah, qu'arriva-t-il? Eh ben, elle se convertit au catholicisme. Et quand elle rentre aux États-Unis, ben voilà, elle est devenue catho. En juin 1804, elle devient membre de la seule église catholique de la ville. Et 1804, une seule église catholique à New York, hein. Elle est veuve, elle est seule à New York, elle crée une école. Et sa conversion officielle, au bout d'un petit moment, vient aux oreilles des parents d'élèves. Ils lui retirent leurs enfants. Le sentiment anticatholique est très, très fort à l'époque. C'est vrai. Alors là, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais début du 19e à New York, ben non, on peut être catho, c'est mal vu. Alors, elle s'installe dans le Maryland et là, elle crée la première école paroissiale catholique établie en Amérique. Il y a une communauté religieuse qui se constitue autour de l'école et c'est la première fraternité catholique basée aux États-Unis. Les Sœurs de la Charité de Saint-Joseph et Elisabeth, elle devient la mère Seton. Elle en a fait des premières. Et donc, de 1809 jusqu'à sa mort le 4 janvier 1821, elle est morte de la tuberculose à 44 ans, mère Seton a travaillé sans relâche pour développer cette communauté. Il y avait quand même à sa mort 20 communautés et 2 orphelinats quand elle est morte. Alors, elle est devenue sainte par la suite. Comment peut-on devenir sainte ? Ça vous intéresse peut-être
si, parce bien que sûr, mais il faut si faire, jamais... avoir fait des miracles.
Alors, exactement.
Qu'est-ce qu'elle a
je vois
fait,
que vous êtes vachement, vous êtes renseigné, en fait, ça vous intéresse. Hein. Et oui, alors, soit il faut être martyrisé. Ça, vous pouvez aussi, c'est une autre option.
Ce qui est un peu notre cas ici, par vous.
Eh bien, moi, je pense que oui, vous pourriez, vous êtes en bonne voie, vous aussi. Soit vous êtes martyrisé, soit vous êtes responsable de 2 miracles. Alors, pour Elisabeth Seton, il y a eu 3 guérisons miraculeuses, 1930, 1952 et en 63. Un ouvrier du bâtiment qui était condamné par la médecine, et l'une des sœurs de la charité lui remet une relique, hein, un onos d'Elisabeth, et quelques heures plus tard, que se passe-t-il ? Il est rétabli mystérieusement. Et c'était très important d'avoir une sainte américaine parce que il y avait que des protestants aux États-Unis, je le disais, il n'y avait pas de sainte américaine. Alors que au début des années 60, en Italie, 40 000 saints nés dans le pays, alors qu'aux États-Unis, il y en avait 0. Donc c'est important d'avoir la première sainte américaine. Elle est canonisée le 14 septembre 1975 par le pape Paul VI. Alors si vous allez sur Catholic Online, il faudrait voir de quoi vous voulez devenir le saint patron, Stéphane.
Sur Catholic Online,
tout cas,
ça c'est
exactement.
J'ai connu qu'un seul, je n'ai fait qu'un seul miracle, faire monter le niveau d'histoire de Mathieu Noël.
Mais c'est pas rien, Stéphane, vous partiez de loin.
En tout cas, Elisabeth Seton, la mère Seton, est la sainte patronne des problèmes de belle famille, des problèmes avec les enfants, des veuves, la mort des parents et l'opposition des autorités de l'Église. Ah, voilà une sainte, ma foi, qui serait quand même bien utile à Las Vegas, hein.
Ben merci
vous
beaucoup, Clémentine.
Mais disons que oui, mais vous avez surtout respecté votre temps, Clémentine, quasiment. Ce qui est très,
c'est
très
à l'insu
rare.
De mon plein gré. Hein,
vous deviez normalement démarrer le quiz avec un point en moins, mais pour cette bonne action, une de plus, que vous avez accomplie.
Vous la rétablissez dans ses droits.
Oui, on va partir sur un quiz à égalité.
Sainte Martyre. Il y a une sainte Clémentine, les gars. Hein. Bah, Saint Matthieu, bien sûr. Saint Stéphane aussi.
Oui, évidemment.
Saint-Étienne.
Saint-Étienne, bien sûr.
À tout de suite pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est une grande dame de l'histoire, ça, on le sait. Ce qu'on sait moins, en revanche, mais qui ne va pas tarder à nous exploser au visage dans quelques semaines, c'est que c'est une grande dame de la chanson. Son tube de l'été, actuellement en phase de mixage, promet d'être un carton mondial.
Chipolata. Chipolata. Chipolata.
Ça, à mon avis, ça sera plus fort en vue sur YouTube que Despacito. Chipolata, le tube de Clémentine.
Vous passez vos week-ends à faire des...
Ouais, vous savez que j'ai que ça à faire. Alors,
je vous fais des montages,
c'est comme ça, Stéphane.
C'est bien.
Mais vous aurez le ventre bientôt.
J'aimerais être dans votre vie, moi.
On peut pas tous passer ces week-ends à écosser des petits pois,
oui, bien sûr,
ou à biner la terre du perche. Stéphane, la première question est pour vous, puisque nous jouons à Bernd Tobiola et vous l'aurez compris. Commençons en tutoyant les étoiles. Un astronaute est américain, un cosmonaute est russe, un taïkonaute est chinois. Ma question est toute simple, Stéphane. Est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire de l'humanité un afronaute, à savoir un Africain qui a effectué un voyage spatial?
Ça me paraît très normal qu'il y ait un...
Non, mais Stéphane, aucun démon n'est lié à une nationalité, sûr, une couleur de
non,
peau.
Non, bien sûr.
C'est lié au cosmos, aux astres.
C'est lié à... Mais, non, alors, attendez.
Non, mais qu'est-ce que
il s'appelle
que
pas Afronaute, d'abord. Il y a eu un Africain dans l'espace, j'imagine. Mais il s'appelait pas Afronaute.
Mais non, il y a eu quoi? Il y a eu un Afro-Américain, il n'y a pas eu d'Africain dans l'espace.
J'aimerais pas... rendre la question plus difficile qu'elle ne l'est. La question, oubliez Afronaute, tout ça. Est-ce qu'il y a déjà eu un Africain dans l'espace, Stéphane? C'est ma question.
Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Mais on n'était pas très nombreux là-haut. Non, je dirais non.
Vous avez gagné!
Et ça s'est joué à peu de choses. Je dois vous prévenir, c'est une triste histoire. Mandla Maseko est sud-africain, disque jockey. Il a gagné un concours où il a battu plus d'un million de candidats. Il a gagné un ticket pour l'espace en 2013 en répondant à des concours physiques et mentaux. Il devait faire partie d'un groupe de 22 personnes voyageant à bord de la navette américaine Lynx Mark. Il aurait été le premier Africain, mais voilà, il est mort dans un accident de moto juste avant. Triste histoire. Question numéro 2, Clémentine. Ne restons pas sur cette triste histoire. En 1969, aux États-Unis, Monseigneur Borders, évêque de la ville d'Orlando, demande une entrevue urgente auprès du pape. Il veut bénir le nouveau parc d'attractions Disney d'Orlando. Le pape va lui refuser. Vrai ou faux?
Écoutez, je ne vois pas pourquoi le pape refuserait de bénir. Le pape, il est dans l'une de ses
attributions. Il aime bien Mickey.
Donc on bénit des bateaux, on bénit des chevaux, on bénit des voitures, des camions, on bénit des chiens, bah oui, bien sûr.
Hein? Et des parcs d'attractions.
Et pourquoi pas un parc d'attractions? Écoutez, je réponds oui.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, car en fait, ce n'était pas du tout l'objet de la visite de l'évêque d'Orlando. En fait, l'évêque d'Orlando, en 69, la date a son importance. Il a trouvé un texte canonique de 1917 disant que si un nouveau territoire était découvert alors que le lieu de départ de l'expédition appartenait à son diocèse, il devait être nommé automatiquement évêque du nouveau territoire. Or,
ah oui.
1969, un nouveau territoire est découvert.
L'espace.
L'espace est un peu vaste.
La Lune.
La Lune et Cap Canaveral dépend du diocèse d'Orlando. L'évêque voulait être nommé évêque de la Lune. Ça lui a été refusé sous prétexte qu'il n'y avait personne sur la Lune.
Ah, écoutez, c'est fort intéressant.
Ah oui, c'est bien.
Question numéro 3, Stéphane. 1958, c'est la création du Walk of Fame à Hollywood. Un jour, peut-être, vous aurez votre étoile.
Non, aucune raison.
Quelques Français y sont, comme Sarah Bernard et Maurice Chevalier. En 2002, Mohamed Ali a son étoile, mais il fait un caprice. Il demande à ce que son étoile soit sur un mur et non par terre, pour que ses fans se prennent en photo devant en serrant les poings comme les boxeurs. Vrai ou faux? Réfléchissez bien, Stéphane.
Mais ils sont tous par terre, il y en a sur le mur.
C'est ma question.
Mais il n'y en a pas sur le mur.
Il n'y en a pas sur le mur. Mohamed Ali, il est par terre.
Ah oui, je crois, comme tout le monde.
Attendez. Est-ce que Mohamed Ali est déjà sur le
Alors peut-être qu'il y a une question religieuse. Est-ce qu'il y aurait une question religieuse?
Parce que comme... Ça y est, ça carbure dans l'esprit de Stéphane, les neurones se connectent. En 2002, Mohamed Ali a son étoile, mais il fait un caprice. Il demande à ce qu'elle soit sur un mur et non par terre pour que ses fans se prennent en photo devant en serrant les poings.
Non, c'est pour que ses fans ne marchent pas dessus.
Et pourquoi?
Parce qu'il est musulman.
Donc la réponse
Ben non, enfin...
Vous avez gagné.
C'est magnifique. Vous voyez, quand on réfléchit ensemble, Stéphane, ce que deux cerveaux peuvent faire quand ils sont connectés. Ouais. Faux. L'étoile de Mohamed Ali est effectivement sur un mur, mais pour une autre raison que vous avez deviné, pour qu'on ne puisse pas marcher sur le nom du prophète. Mmh. Oui. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, c'est la question de la dernière chance. Restons à Hollywood. Qui a eu l'immense honneur d'avoir son nom en premier sur une étoile dans le Walk of Fame, la toute première étoile du Walk of Fame? Le réalisateur du film Le train sifflera trois fois? Le réalisateur du film Ça commence à Veracruz? Ou le réalisateur du film Belle blonde et bronzée?
Belle blonde et bronzée.
Non, non, bah, réfléchissez avant de répondre n'importe quoi.
De toute façon, vous avez perdu puisque vous avez.
J'ai perdu de toute façon.
Alors,
Bon, alors le train sifflera trois fois.
Vous dites?
Le train sifflera trois fois.
Vous avez gagné!
Et c'est presque 3 points. Le train sifflera 3 fois. 3 points, c'est logique. Bravo Clémentine! Le réalisateur du train sifflera 3 fois, à savoir Stanley Kramer, qui réalisa aussi Devine qui vient dîner. Quant à Belle, blonde et bronzée, c'est un classique de Max Pécasse, sorti en 1980, qui mérite beaucoup plus que notre mépris. Question numéro 5. La semaine dernière, nous avions rapidement évoqué Geronimo dans ce quiz. Il mérite qu'on y revienne. Né en 1829, mort en 1909, son premier nom était Gokaye. Grâce à cette cinquième question, heureusement qu'on y est arrivé, nous allons enfin savoir ce que ça signifiait. Gokaye. Trois propositions. Celui qui se lève, celui qui reste assis ou celui qui bâille.
Celui qui reste assis.
Bon, je vais dire le 1. Celui qui se lève.
Celui qui se lève ou celui qui reste assis, je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
Celui qui bâille.
Oui, Stéphane, oui.
Ah, mais oui,
l'histoire de l'Amérique n'a pas de secret.
Mais j'ai confondu avec Sitting Bull, quel
endroit. Celui qui bâille. Il faut dire que c'était quand même le moins plausible, on aurait dit le piège. C'est le nom qu'il reçoit à sa naissance. Donc oui, Geronimo était un bébé qui bâillait certainement beaucoup. Puis, plus tard, il fut surnommé Gugia, c'est-à-dire l'astucieux. C'est Stéphane qui gagne et je dirais il y a une forme de logique puisque vous aviez déjà gagné avant que je décrète.
Mais regardez, il est complètement blasé en fait.
Mais il est tellement habitué à gagner.
Mais non, c'est pas ce quiz est devenu n'importe quoi.
Alors que votre quiz à vous, de fin d'émission, lui est très très rigoureux. Je donne rendez-vous à nos auditeurs tout à l'heure s'ils veulent vérifier la différence dans les questions. C'est vrai que c'est beaucoup plus pointu. Bravo Stéphane.
Je t'en prie.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, la seule émission d'histoire qui pendant 2 heures vous entraîne dans les nuits interlopes de Las Vegas.
Oh yeah!
Et ça reste quand même de l'histoire grâce à l'image patrimoniale de Stéphane Bern.
Oui Mathieu, d'autant qu'il n'y a pas que les nuits, il y a les jours aussi. Ah. Ils sont passés à Vegas, ils sont restés à Vegas. C'est le point commun de nos personnages cet après-midi. Après Benjamin D. Bugsy Siegel, le mafieux qui a imaginé le Las Vegas que l'on connaît, ses hôtels, ses casinos, ses bars à hôtesses, comme on dit pudiquement, resté sur le pavé après avoir été visé en pleine tête, je vous raconte maintenant William Bringhurst, qui bien avant lui est passé par Vegas aussi. Un mormon qui s'y est installé. Bon, pas à l'hôtel, vous verrez.
C'était avant. Quant à moi, je vous présenterai l'antithèse physique de David Castello-Lopez, puisqu'une seule de ses cuisses pèse le poids total de notre fier chroniqueur portugais. Francis Ngannou est champion de MMA. Le temple du MMA, c'est Vegas. Et Francis est si balèze qu'il y a donc élu domicile.
Alors, sans oublier, évidemment, vous les citez nos chroniqueurs, qui font malgré tout le poids. David Castello-Lopez qui nous raconte les origines du food truck.
Le food truck,
le camion
exactement.
À nourriture.
Le camion à nourriture, mais qui a un autre sens quand on le dit en anglais. On ne veut pas vraiment dire la même chose. Un camion à frites sur une place à Arras, c'est pas un food truck.
Ah bon?
Bah, c'est techniquement un food truck, mais c'est pas ça qu'on veut dire. C'est pas ça qu'on veut dire qu'on appelle un food truck. Donc, je dirais les food trucks de maintenant, les food trucks bobos, en fait.
C'est ça dont on va parler. D'accord. Et c'est né aux États-Unis.
Oui. Et puis, on va parler de viande des grisons. Ouais. Alors ça, c'est très, très bon.
Je sais que vous pourriez vous nourrir uniquement de viande des grisons.
J'adore ça. C'est sec, bon. Ça ne fait pas grossir. C'est en calories, c'est ridicule.
Ouais.
Et c'est suisse.
Et c'est suisse. Et ça vient du canton des grisons et non pas de l'animal les grisons qui n'existe pas.
C'est comme ça, vous l'avez découvert plus tard. Et puis, la lutte finale permettra de jauger nos compétences et nos connaissances en histoire et... Je crois que c'est un Suisse qui, pour l'instant, mène la danse. Mais jusqu'à quand? Tout de suite, découvrons notre deuxième personnage qui est passé à Vegas et qui est resté à Vegas.
Europe 1.
16h, 18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
À elle seule, elle symbolise la nuit, ses folies, ses excès, le vice et le péché. Mais elle est aussi une vaste plaine défraîchie.
Marielle Tombal.
Mais non, Stéphane, je vous en prie. Non, là, c'est de Las Vegas dont on parle cet après-midi. Lui, il s'est rendu bien avant son strip, ses hôtels, ses casinos. Stéphane Bern nous raconte un pionnier qui est passé dans le désert de Vegas et aurait bien voulu y rester, le mormon William Bringhurst.
Il est 15h30, ce 14 juin 1855, lorsqu'après 35 jours de voyage à travers montagnes et vallées, de tremblements de terre et une traversée du désert, William Bringhurst et ses compagnons arrivent enfin à destination. 32 hommes, 40 attelages, 15 vaches et autant de chevaux ont parcouru presque 700 km à travers l'Ouest américain pour débarquer au milieu de nulle part. Première impression, il fait chaud. Bon, rien d'étonnant. Nous sommes dans le désert de Mojave, région la plus aride des États-Unis. C'est donc avec joie que tout le monde se rue vers le petit ruisseau qui coule au milieu de la plaine que deux sources toutes proches transforment en une prairie humide de quelques kilomètres de long sur environ 500 mètres de large. Savez-vous, Mathieu, comment l'on nomme les prairies humides en espagnol ?
Humida plenas ?
Las Vegas.
Ah, pas con, ouais.
C'est donc ainsi que des commerçants mexicains ont baptisé ce lieu qu'ils ont découvert en 1829 sans trop s'y éterniser. Depuis, peu de gens sont passés par là, excepté John Fremont, un explorateur américain, qui cartographia la zone en 1844, et surtout les Paiutes, peuple amérindien qui vit dans la région. Le décor de ce Las Vegas d'antan se résume donc en un ruisseau, un peu d'herbe, de boue et un soleil de plomb. Mais qu'est-ce qui a donc poussé ce groupe de voyageurs vers un lieu a priori si hostile ? Eh bien, Dieu, tout simplement. Ces messieurs sont tous membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, comprenez Mathieu, des Mormons, adeptes d'une religion d'inspiration chrétienne fondée 25 ans auparavant sur la côte est des États-Unis. Constitués en communauté très soudée, maltraitée par leurs contemporains, les Mormons n'ont cessé de se déplacer toujours plus vers l'ouest, jusqu'à s'installer sur les rives désertes du Grand Lac Salé dans l'Utah, pour fonder la ville de Salt Lake City. C'est de là que William Bringhurst et ses hommes sont partis il y a plus d'un mois avec comme mission d'évangéliser les nations amérindiennes de ce grand ouest largement inconnu et à peine peuplé par les Blancs à l'époque. Le site de Las Vegas leur servira aussi d'étape vers les côtes de la Californie sur une route autant spirituelle que commerciale donc. Dès le lendemain de l'arrivée, tout le monde se met au travail pour concevoir un système sommaire d'irrigation et rendre la zone cultivable. Ils se lancent aussi dans l'édification d'un fort en briques de terre pour sécuriser la communauté. On ne sait jamais, les Paiutes pourraient mal accueillir l'irruption des Blancs sur leur territoire, mais les chefs locaux semblent rapidement se montrer pacifiques. Tout commence très bien. À Las Vegas, William Bringhurst est un chef respecté. Il réunit tous les soirs ses ouailles pour chanter les louanges de Dieu et motiver ses troupes à cette belle mission d'éducation spirituelle. Il faut donner du courage aux hommes qui doivent transformer cette prairie marécageuse en un endroit propice à l'installation humaine. Dès le mois de juillet, chacun cultive une petite parcelle. On plante de l'avoine, du maïs, des haricots et d'autres légumes qui poussent à vive allure. Un véritable Éden. Les Paiutes se montrent d'autant plus amicaux qu'ils aident parfois même à garder le bétail. Bringhurst veut les former aux techniques d'agriculture, eux qui se contentent en général de chasse et de cueillette. Quelques Indiens viennent parfois assister à l'office du dimanche, écoutant poliment des prêches auxquels ils ne comprennent sûrement rien, mais un premier chef se fait baptiser. À l'automne, pourtant, les récoltes ne sont pas bonnes. La terre n'est pas si fertile et des maladies ont infesté les champs. Tous vivent sur les réserves. Les missionnaires se contentent de pain sec et d'un peu d'eau, mais ne perdent pas leur énergie motivée par leur leader. Durant l'hiver, des familles mormones se joignent à la communauté en apportant bétail et provisions qui permettent de tenir jusqu'au printemps. On ensemence à nouveau les champs en espérant un meilleur rendement. Entre-temps, on a découvert dans les montagnes voisines un gisement de plomb. Les autorités de Salt Lake City y voient un intérêt et missionnent un certain Nathaniel Jones qui arrive au mois de mai 1856 pour exploiter le minerai avec une partie des hommes de la communauté. Mais William Bringhurst goûte peu l'arrivée de ce concurrent en sorte de deuxième chef et refuse que ses hommes aillent travailler à la mine. Les discussions s'enveniment. Un témoin raconte que les deux hommes se parlent sur tous les tons, sauf celui de gentleman.
Les dissensions s'exacerbent rapidement au sein du groupe. Certains ne comprennent plus trop les prêches de Bringhurst, vantant leur mission évangélisatrice, alors que leur principal souci demeure de manger à leur faim. Les récoltes ne suffisent pas à nourrir la centaine de personnes, d'autant que les Paiutes, habitués depuis toujours à glaner ça et là ce dont ils ont besoin, ont tendance à se servir dans les champs. Lorsqu'un soir, un jeune Indien est surpris à prendre un melon, il passera la nuit enchaîné dans le fort. La fraternité et l'amour entre tous les enfants de Dieu n'apparaît plus si évidente. Du côté de la mine, difficile à exploiter en réalité, les choses ne vont pas mieux. Nathaniel Jones part pour Salt Lake City afin d'acheminer du matériel. Il revient en décembre 1856 avec des outils, mais aussi avec une lettre signifiant à William Bringhurst qu'il ne dirige plus la communauté. Pire, il est excommunié de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Un autre est nommé à sa place et adoubé quasiment à l'unanimité. Une semaine plus tard, Bringhurst s'en va. Un mois après, c'est au tour du groupe de mineurs de partir aussi, bien incapables d'exploiter les mines. Au bout de 2 mois, les missionnaires quittent à leur tour les lieux. Ils n'ont pas assez de nourriture et cela fait belle lurette qu'aucun Indien n'est venu à l'office du dimanche. Seules quelques familles restent avec un peu de bétail. L'année suivante, les Indiens font une razzia sur ce qu'il reste des champs et l'église mormone abandonne officiellement la mission. William Bringhurst est quant à lui finalement réintégré à l'église après s'être expliqué de son échec auprès des instances de Salt Lake City. Il s'occupera d'enseignement jusqu'à sa mort en 1884, bien loin des missions au milieu du désert. Le site de Las Vegas restera longtemps quasi vide de population. Les Indiens Paiutes seront bien entendu décimés par les maladies et deux guerres contre les Blancs. Ce n'est qu'après l'arrivée du chemin de fer en 1905 que la localité commence à doucement se développer avant de devenir à partir des années 50 la ville que nous connaissons. La bien nommée City of Sin, la ville du péché, terre promise de luxure et d'argent, oasis de vice dans un désert où même Dieu a pourtant échoué à s'implanter.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de William Bringhurst, nous sommes avec une journaliste qui nous replonge dans l'histoire de Las Vegas. Bonjour Marion Guyon-Varche.
Bonjour.
Bonjour Marion Guyon-Varche. Vous avez publié un grand dossier dans le magazine Ça m'intéresse, histoire sur les origines et le développement de Las Vegas. Pourquoi William Bringhurst et ses hommes décident-ils de s'arrêter ici, au milieu du désert ? Las Vegas est située pour eux dans un endroit clé ?
Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Las Vegas vient à peine d'être découvert lorsque les Mormons s'y installent. Il y a eu une première mission en 1829, un explorateur qui est passé en 1844, et eux, ce sont vraiment les premiers à installer une communauté. Et s'ils le font à cet endroit-là, c'est pour deux raisons. C'est parce qu'effectivement, Las Vegas est un lieu stratégique, en fait, qui se trouve sur la route de la Californie. Et deuxième raison, parce qu'il y a la communauté des Indiens Paiutes que les Mormons se sont donné pour mission d'évangéliser.
Est-ce que le groupe de William Bringhurst est le premier à vouloir s'installer dans ce territoire en tant que colon américain ?
Alors ça, on ne sait pas si ce sont les premiers à vouloir le faire, mais en tout cas, c'est les premiers à le faire, effectivement. Mmh. Quand ils arrivent en 1855, ils construisent un fort, ils sont 29 donc à s'y installer, ils commencent à travailler les champs avec en installant tout un système d'irrigation, donc c'est vraiment les premiers à vouloir créer ici une communauté.
Je l'ai raconté dans le récit, les Mormons ont souvent été maltraités et chassés, surtout de la côte Est, où ils sont pourtant nés. Qu'est-ce qui explique que l'Ouest des États-Unis semble plus ouvert pour les accueillir ? C'est encore au milieu du 19e siècle un territoire à conquérir ?
Oui, on est encore au tout début de ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest. Donc en fait, les Mormons, leur église a été fondée dans les années 1820, et ils ont été chassés d'abord de New York, se sont d'abord installés dans l'Illinois, le Missouri, où à nouveau, dans les années 1830-1840, ils ont subi de nouvelles persécutions et ont dû fuir. Et donc, ils font partie en fait des premiers colons. Ils étaient parmi les tout premiers à partir vers l'Ouest, qui était une terre vierge, et donc où ils risquaient moins d'être persécutés. Et donc, c'est ainsi qu'ils se sont installés à Salt Lake City en 1847 pour échapper aux persécutions qu'ils subissaient à l'Est.
Et comment ils sont perçus par les Américains ? On les prend pas au sérieux ou au contraire, on les craint ?
Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'à l'époque, l'Amérique, c'est quand même un mélange de plein de communautés, de personnes. Et les Mormons, c'est un peu... Alors, c'est une église qui commence à être puissante parce qu'ils ont quand même des dizaines de milliers de fidèles, mais qui sont un peu des originaux parmi d'autres. Et on les craint parce que dans les villes où ils s'installent, comme ils l'ont fait par exemple dans une ville de l'Illinois qui s'appelle Nauvoo, ils ont tendance à vouloir prendre le pouvoir, à imposer leur façon de faire à évangéliser, à appliquer leurs règles qui sont, on le rappelle, très strictes, pas d'alcool, pas de tabac, voilà. Donc ça plaît pas forcément, c'est pas forcément très raccord avec l'ambiance de l'Ouest sauvage, quoi. On va dire ça comme ça. Donc ils sont pas toujours très très bien perçus, mais voilà, c'est une communauté parmi d'autres, quoi.
William Bringer semble assez mal avoir anticipé son étape de Las Vegas. Pourtant, il faut rappeler, les Mormons ont réussi à fonder la ville de Salt Lake City dans un environnement montagneux et aride aussi. Qu'est-ce qui fait que dans l'Utah, ça a marché et qu'à Las Vegas, ça échoue? Est-ce que c'est pas plutôt la personnalité de William Bringer qui pose problème, ou plutôt un désaccord profond avec Nathaniel Jones sur leur mission respective?
Alors, je pense que c'est un mélange de plein de choses, parce qu'effectivement, les Mormons étaient quand même connus pour réussir à s'installer là où personne n'y arrivait. L'Utah, c'est un très bon exemple, parce qu'ils étaient vraiment, enfin, ils maîtrisaient les techniques d'irrigation beaucoup mieux que d'autres colons, et donc ils arrivaient à s'installer dans des terres ingrates, si on peut dire, ou arides. Et à Salt Lake City, je pense que ce qui leur a manqué, c'est le temps, parce qu'en fait, ils sont restés très peu de temps. 1855-1857, ça fait à peine 2 ans, donc pour domestiquer un environnement pas très favorable, on va dire que c'est assez peu. Mais je pense que plus que la personnalité de Bringer, c'est vraiment les dissensions avec Nathaniel Jones qui ont eu raison de la communauté, parce qu'en fait, lui s'était installé avec une mission qui était plus liée à l'évangélisation, des Paiutes, alors que quand Nathaniel Jones est arrivé, lui, il avait vraiment une mission qui était plus économique, on va dire, d'exploiter la fameuse mine de plomb dont vous avez parlé. Et donc, il y avait un peu deux missions contradictoires, deux chefs qui n'étaient pas là pour les mêmes raisons, et ajouté à ça les relations avec les Paiutes qui commençaient à être compliquées. Voilà, ça a fait une espèce de petit cocktail qui explique pourquoi ça n'a pas fonctionné, quoi.
Et justement, William Bringer et ses hommes ont pour mission d'évangéliser les Indiens Paiutes. Ces derniers sont décrits comme pacifiques, mais bon, vu le bilan assez mitigé de l'évangélisation par les Mormons, on imagine qu'ils n'ont pas dû se laisser faire. Comment ça se passe entre eux?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les Mormons, ils ont une image assez particulière des Amérindiens pour l'époque. C'est-à-dire que eux sont convaincus que ce sont des descendants lointains des Israélites, donc comme les Mormons, et qui sont arrivés en Amérique il y a très 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 longtemps, qu'ils se sont éloignés du droit chemin, et donc que la mission des Mormons, c'est de les y remettre en les ramenant à Dieu, quoi. Donc pour ça, les Mormons, ils sont vraiment dans une démarche plutôt pacifiste, c'est-à-dire qu'ils apprennent les langues indiennes, qu'ils essayent d'établir des relations commerciales, de vivre en bonne intelligence, mais à côté de ça, il y a la réalité qui les rattrape un peu, qui est donc la coexistence avec des communautés qui n'ont pas du tout les mêmes règles de vie, puis qui luttent pour vivre sur un même territoire, pour manger la même nourriture. Donc en fait, après, ils sont un peu rattrapés par la réalité qui est compliquée. Et alors, avec les Paiutes, il y a eu des dissensions, mais avec d'autres tribus indiennes, il y a carrément eu des massacres. Enfin voilà, la coexistence n'était pas toujours pacifique, quoi.
Les Mormons finissent par quitter les terres de Las Vegas au bout de 2 ans, vous l'avez rappelé. Pourtant, s'ils avaient persévéré, ils auraient pu s'y établir durablement et réussir à s'implanter et puis aussi à faire fructifier les récoltes.
Alors ça peut-être, c'est un peu dur d'imaginer, mais après ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, donc les Mormons sont effectivement partis en 1857, mais en 1905, alors que Las Vegas recommence à se développer quand le chemin de fer est arrivé, les Mormons vont commencer à se réinstaller. Alors pas en masse, on sera jamais sur une communauté qui gère la ville comme c'est le cas à Salt Lake City, mais ils vont représenter, par exemple dans les années 30, ils sont à peu près 10% de la population. Et faut savoir qu'ils vont aussi jouer un rôle plus tard dans le développement de la ville. Par exemple, c'est un banquier mormon qui s'appelle Thomas, je crois, qui est le premier à prêter de l'argent au casino pour qu'il se développe et qu'il devienne les espèces de gigantesques machines qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 60, c'est pareil, c'est encore des mormons qui entourent Howard Hughes, l'homme d'affaires qui rachète Vegas à partir du milieu des années 60 et qui transforme en fait la ville en chassant petit à petit la pègre. Et donc, il était entouré uniquement de conseillers mormons, justement parce que il pensait que leur hygiène de vie irréprochable les aiderait à ne pas succomber au vice. Et donc, du coup, il était entouré de ce qu'on appelait une mafia mormone. Donc, en fait, il y a toujours eu comme ça des liens, quoi. C'est assez rigolo qui ont perduré, quoi, après l'abandon du fort en 1857.
Mais merci beaucoup, Marion Guyon-Varche, d'être venue avec nous.
Je vous en prie.
Sur ce mormon qui a voulu conquérir la ville du péché avant qu'elle ne le soit définitivement. Oui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on réunit des personnages qui sont passés à Las Vegas, mais qui sont restés à Las Vegas. Après Benjamin D. Bugsy Siegel et William Bringer, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'un sportif qui s'est tellement plu à Las Vegas qu'il a décidé d'y élire domicile.
Vous le savez, Las Vegas, c'est le temple de la boxe, mais c'est aussi le temple d'un sport plus violent que la boxe, plus cruel aussi, le MMA. Anciennement appelé Free Fight, les règles de ce sport sont relativement simples, pas de règles. Les puristes parlent d'arts martiaux mixtes, les béotiens de boucherie. Au menu, lutte au corps à corps, coup de pied, coup de poing, coup de genou, coup de coude, coup de tout ce que vous voulez. Bref, un sport no limites où vous avez peu de chance d'entendre l'un des deux combattants s'exclamer
« Oh les mains !»
Les combattants professionnels de MMA se déroulent sous la houlette de l'UFC. Alors, non pas que choisir, celle qui voudrait un portrait honnête entre la semoule Tipiak et la Panzani, l'autre UFC, Stéphane, l'Ultimate Fighting Championship. Et au firmament de ce championship brille une étoile camerounaise dont le nom pourtant le prédisposait plutôt à devenir poissonnier dans le Lot-et-Garonne, Francis Ngannou. Francis qui a décidé en 2017 de transporter son 1m93 et 110 kg de muscles dans la capitale du jeu et de la luxure, où il n'est pas rare de croiser Stéphane Bern sortant ivre du César Palace.
En bikini léopard, oui. Un fouet à la main, oui. Un pied sur un tabouret et une cigarette au bord des lèvres.
Bien sûr, c'est votre quotidien à Vegas. Francis Ngannou.
Ceux qui me connaissent me reconnaîtront.
C'est tout vous. Francis Ngannou explique avoir pris sa décision dans l'optique de franchir un palier. Las Vegas devient donc sa maison, un point de chute qui clôt un périple bouleversant pendant lequel Ngannou a bien failli laisser sa vie. Il voit le jour le 5 septembre 1986 dans le village de Bafia au Cameroun. Vous connaissez Stéphane, c'est à 10 km à l'est de Bafango. Ses parents divorcent alors que le petit Francis n'a que 6 ans. N'arrivant pas à se mettre d'accord sur un système de garde, il l'envoie chez ses tantes. C'est plus simple comme ça. Son père, dit de mauvaise réputation, a la fâcheuse habitude de cogner les membres de sa famille et accessoirement les autres habitants du village. Francis se fait alors une promesse: je ne serai jamais comme papa. Il est approché par des gangs pendant son adolescence, mais non, il refuse: je ne serai jamais comme papa. Bon, force est de constater qu'il n'est pas devenu décorateur d'intérieur, mais bien champion de MMA, donc on dira qu'il a pris le meilleur de papa. Je l'aimais trop pour lui en vouloir, malgré toutes ses irresponsabilités, c'était mon héros, j'ai hérité de sa force. Une force et une détermination hors normes, c'est ça, Francis Ngannou, car son destin, je vous le dis, va vite vous faire relativiser vos soucis de touillette à la machine à café. À côté du parcours de Francis, Germinal c'est Choupi, Dickens c'est l'âne trop. À l'âge de 10 ans, pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, le petit Francis commence à travailler dans une mine de sable, source de revenus principale de la région. Il arrête ses études à 17 ans, cumule les petits jobs et fouille les poubelles quotidiennement pour trouver de quoi manger. Quand il parle aujourd'hui de son enfance, sans grande surprise, le bilan est mitigé. Je haïssais le lieu où j'ai grandi, je haïssais la mine de sable, je haïssais tout, je haïssais ma vie. Oh ben dis donc, un garçon capricieux. Nous, avec David, on adorait le sable, on faisait des châteaux sur la plage de São Jacinto. Fan de boxe anglaise et littéralement obsédé par Mike Tyson, le petit Francis commence les entraînements à l'âge de 22 ans contre l'avis de son entourage. À 26, il quitte le Cameroun pour tenter de percer dans la boxe en Europe. Son périple va durer un an. Il arrive d'abord au Maroc. Yala, Stéphane, après une année passée illégalement sur place à dormir dehors, il traverse la Méditerranée et arrive en Europe. Stéphane. Il se fait arrêter par la police des frontières et passe 2 mois en tôle. Il réussit finalement à atteindre Paris sans un sou, sans contact, sans logement, sans rien.
Sans papier, surtout.
Et sans papier, bien sûr. Bizarrement, c'est, dit-il, l'un des plus beaux moments de sa vie. Vous y réfléchirez la prochaine fois que vous craquez nerveusement à cause d'un simple message: remplacer toner sur imprimante.
Mais attends. Non. Mais c'est pas possible. Je refuse.
Bien plus philosophe que vous, David. Bien plus philosophe, Francis raconte: même si je dormais dans des parkings et que je n'avais pas d'argent et rien à manger, j'étais libre. Comparé à quand j'étais au Maroc, un parking à Paris était comme un hôtel 5 étoiles. Vous suivez toujours, Stéphane? Je vous sens perdu comme rarement.
Non, je vous écoute attentivement.
Au bout du tunnel, pour Francis, il y a heureusement le jour, en la personne de Fernand Lopez. Un compatriote camerounais combattant en MMA. Moi j'adore la boxe, lui dit Francis, voulant de toute évidence tisser un lien de connivence avec Fernand. C'est un sport de connard, lui répond grosso modo Fernand. Le chemin le plus direct pour arriver au succès, c'est le MMA. Francis hésite, puis pour son premier tournoi, il se voit proposer 2000 euros pour un seul combat. Il décide que finalement le MMA c'est beaucoup mieux que la boxe et il se lance. Fernand le prend sous son aile, il l'entraîne, il lui fournit l'équipement, un toit, de quoi se nourrir en barilla. Francis se fait surnommer le prédateur sur le ring et il affronte son premier adversaire et gagne en lui faisant une clé de bras à seulement 1 minute 44 de la première reprise. Après une défaite 2 mois plus tard lors de son deuxième combat, il remonte sur le ring pour affronter consécutivement 2 adversaires. Il met le premier KO d'un coup de poing, puis... Alors ça c'est un coup de poing effectivement qui ressemble peu à ceux qu'on entend dans le monde du MMA. Puis le deuxième par soumission à 2 minutes 10. Alors n'étant pas un pro du MMA, j'ai eu la curiosité de taper dans Google Images KO par soumission. Oui, il y a de ça Stéphane, il y a de ça, je sens que vous commencez à prendre goût au MMA. Et la soumission c'est une position intéressante. Personnellement je ne savais pas qu'on pouvait égorger quelqu'un avec sa rotule. Anatomiquement c'est facilement. Francis part ensuite à Genève pour un combat expéditif puisqu'à seulement 44 secondes, il obtient la victoire par soumission en guillotine.
Ah, oui.
Alors Stéphane, là vous avez bien entendu, la soumission en guillotine est une variante particulièrement intense du chaos par soumission. Vous irez voir sur Google Images où est la tête, où sont les fesses, on ne sait plus, tout est imbriqué. Ce qu'il faut retenir, car c'est déjà beaucoup d'émotion pour nous, c'est que depuis ses débuts dans l'UFC, notre prédateur va enchaîner 6 victoires consécutives. Mais voilà, en 2016, il se retrouve sur le ring face à celui qui est sa hantise absolue.
Un travesti nommé Bigoudi.
Non, pas votre hantise absolue à vous, Stéphane. Sa hantise absolue à lui. Bohan Mihajlovic. Autre chose. Peu importe qui il est, Stéphane, on s'en fout. Son nom évoque un type jugé pour crime contre l'humanité par un tribunal international. Donc on sait qu'on va souffrir. Et Francis, pour la première fois, va souffrir. De là à perdre, non. Ça reste Francis et Bojan finira au tapis. En 2018, petit coup de mou, Ngannou échoue à être sacré champion des poids lourds. Il perd contre Stipe Miocic, puis il perd contre Derrick. Pas l'inspecteur allemand handicapé par sa polyarthrite, Derrick Lewis, un autre champion de MMA. C'est là que Francis décide d'aller peaufiner sa technique à Vegas et ça va lui réussir puisqu'à partir de là, il enchaîne les victoires et en mars 2021, il affronte à nouveau ce petit enfoiré de Stipe Miocic, le défonce et remporte enfin, devinez quoi ?
Des boules de geisha ?
Non Stéphane, la ceinture de champion ! Il devient le premier Africain à remporter la catégorie poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship. Pour info, je ne sais pas si on peut parler de fun fact ou plutôt de terrifying fact. Francis détient le record du plus puissant coup de poing au monde, un coup de poing équivalent à la force brute de 96 chevaux. En termes de puissance, l'équivalent serait de se faire percuter par une Ford Escort lancée à pleine vitesse, nous apprend l'étude. Je le déclare donc officiellement, Francis est mon meilleur ami, je l'aime très fort. S'il veut venir à Paris, je peux même l'héberger. Je suis ravi de vous l'avoir fait découvrir. Et puis Stéphane, je sens que ça vous a bien plu le MMA et que vous avez envie d'approfondir.
C'est quoi la position à la Duc de Mal déjà ?
Non.
Ah oui, on fait... non, ça c'est la position à la Edouard.
Non, ça c'est pas une prise de MMA Stéphane, vous confondez avec votre deuxième sport préféré. Non, c'est pas la même chose.
Merci beaucoup Mathieu. Mais j'aime beaucoup la MMA.
Mais vous avez déjà vu un match de MMA ?
Bien sûr.
Mais dans quelles circonstances ? Oui.
Et bien,
en zappant la nuit sur votre bouquet satellite.
Pire que ça. Dans la salle où je faisais du sport, eh bien, pour me motiver, le prof ne trouvait rien de mieux que de mettre des combats de MMA. Parce que du coup, ça vous donne la niaque. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais c'est une scène de film.
Ouais.
C'est et donc, fan devant des combats de MMA.
Et donc, moi, pauvre gringalet, de face à ces brutes. Ça se dit, il y a aussi sur la même chaîne, il y a de la boxe thaï. Oui. Je peux vous dire qu'ils sont
pas aussi
joués, mais ça en envoie. Hein.
Ouh là là, bon, tout ça me fait extrêmement peur, moi.
Ah non, ça motive, je vous assure.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de quitter Vegas, Mathieu.
Oui, Stéphane, en même temps, avec ce que vous gagnez déjà par mois, est-ce que vous avez vraiment besoin de ces 3 millions de dollars que vous avez remportés au Blackjack ? J'espère que vous les reverserez pour l'Ukraine, Stéphane.
Bah, si je les gagne, évidemment, j'ai... Tout de suite.
Tout de suite. Lui, il a envoyé tout ce qu'il a pu en Ukraine, notamment de la viande des grisons, idéale pour reprendre des forces, Olivier Pouls, la viande des grisons.
Puis j'ai même préparé pour Stéphane sa petite collation préférée, m'a-t-il dit.
J'adore,
il m'a donné la recette, vous la donnerez.
Vous avez rarement été aussi réactif, Olivier.
Oui.
Parce que là, Stéphane nous a dit tout à l'heure qu'il adorait ça.
En plus, il est assis à côté de moi, ça sent. J'adore l'odeur de la viande des grisons.
On va tout défoncer dans un instant, mais avant ça, on va écouter David Castello-Lopez qui nous raconte l'origine d'un truc qui donne faim aussi, le food truck.
Le caouet, l'énergie nucléaire, le pâté en croûte, le man bun. Qu'est-ce que ces quatre choses ont en commun ?
Ça a été une chronique chez vous ?
Non.
Parce que le man bun, on l'a pas fait.
Non, le pâté en croûte, il l'a pas fait. Ça, c'est plutôt ma...
C'est le comeback.
Sont des choses qui n'étaient pas cool du tout et qui sont devenues cool ou redevenues cool. Et si je viens de vous faire cette petite liste, c'est bien sûr pour y ajouter une cinquième chose, les food trucks. C'était un truc dans la tête, on pourrait dire vaguement beauf, les food trucks, en tout cas les camions à nourriture, et c'est devenu un truc ultra hype. Parce que bien sûr, les food trucks, ils existaient avant qu'on appelle ça des food trucks, ils existent toujours. D'ailleurs, c'est les camions à frites, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est des food trucks. Mon ami Martin, il m'a rappelé qu'il y avait sur les grands boulevards depuis longtemps des caravanes qui vendaient des sucreries. Des churros, exactement. Le food truck, c'est juste le nom qu'on a donné à ce qui est considéré comme une version chic, urbaine, bobo du camion à frites. Des camions donc qui vendent pas des frites, mais plutôt des burgers vietnamiens ou des bibimbap auvergnats, vous voyez. Et évidemment, si le mot est américain, c'est que la chose elle-même vient des États-Unis. Il y a plusieurs noms de gens qui reviennent quand on cherche les origines du food truck aux États-Unis. Le premier, c'est celui de Charles Goodnight, qui était un éleveur de vaches au Texas et qui,
en 1866 a transformé un ancien chariot de l'armée pour en faire une cuisine ambulante qui vendait de la nourriture aux éleveurs, notamment quand ces éleveurs devaient déplacer du bétail sur de grandes distances. Le deuxième, c'est Walter Scott qui, quelques années plus tard, a eu l'idée de couper une fenêtre sur le côté d'un chariot, ce qui est encore aujourd'hui le principal design utilisé dans les food trucks. Alors ça, c'était encore des adaptations artisanales de vrais camions qui n'étaient pas faits pour ça au départ. Et dans les années 1880, il a commencé à y avoir des gens qui ont fabriqué des chariots spécifiquement conçus dès le départ pour vendre de la nourriture avec des glacières, des cuisinières, des éviers intégrés, etc. Mais les plus proches ancêtres de nos food trucks, ils datent probablement d'un peu après la Seconde Guerre mondiale, un moment où il y avait des chantiers un peu partout aux États-Unis, dans les banlieues américaines, pour loger tous les nouveaux gens du baby boom. Et ces zones, elles se sont couvertes de food trucks qui servaient des repas notamment aux ouvriers des chantiers qui sinon n'avaient nulle part où manger. Ces food trucks, on les surnommait les roach coach, ce qui veut dire les camions à cafards, qui montre qu'ils avaient probablement pas super réputation au niveau de l'hygiène. Mais enfin, ce qu'on a tous envie de savoir, c'est quand même d'où vient le food truck bobo, celui dont je te parlais au départ, celui qui sert des bibimbap norvégiens et des smoothies à la crème de chou kale. Eh bien, selon le New York Times, ce qui est quand même une belle référence en termes de sources, cette folie des food trucks chic du 21e siècle, elle est née à Los Angeles en novembre 2008. Il y a trois personnes, Marc Manguera, Caroline Chin et un cuisinier d'origine coréenne qui s'appelait Roy Choi, qui ont lancé un concept food truck qui vendait de la viande coréenne dans des tacos mexicains. Vous voyez que déjà le principe de la fusion n'importe quoi était déjà là.
C'est la fusion tout court.
Ça s'appelait, ce food truck, il s'appelle toujours Kogi. Et ce qui a fait le succès de Kogi, c'est que pile poil quand ils sont lancés, Twitter a commencé à se développer énormément. Et donc le chef du camion, il disait à l'avance sur Twitter où le camion serait le lendemain. Et ça a explosé, ça faisait des petits événements à chaque fois. Il y avait des queues interminables devant leur camion. Il y a eu des articles sur lui dans la presse nationale. Et c'est de là qu'on date un peu le food truck craze, comme on dit en anglais, la folie des food trucks. Quelques années plus tard, en 2011, le concept est arrivé en France. Le premier food truck cool, chic et célèbre en France, vous vous souvenez de ce
le
que c'était?
Le camion qui fume.
Le camion qui fume, exactement.
Bah bon, en termes de bobo, tu peux me lancer.
Je savais que vous sauriez et qui vendait des burgers cool, notamment sur le parvis de la BNF, je me souviens. Et voilà comment on est passé de la baraque à frites du pauvre au food truck du riche.
Et vous constaterez d'ailleurs qu'il n'y en a pas énormément à Paris, en tout cas comparé à beaucoup d'autres grandes villes, simplement parce que à Paris, les restaurateurs classiques ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée des food trucks, et donc la mairie de Paris,
très limitée,
pour préserver la clientèle des restaurateurs classiques, limite les autorisations de food trucks.
C'est le lobby des restaurateurs.
Ça va changer quand Stéphane sera à la mairie de Paris.
Mais j'ai aucune intention.
Mais si, on lance un peu cette émission, on lance un peu la candidature.
Non, vous êtes gentil, mais non. Je suis très heureux avec vous. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo, sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Olivier Poult nous a fait un très beau cadeau qui sera uniquement virtuel pour vous, chers amis auditeurs. Mais nous, on va le déguster.
Pour une fois.
C'est vous la viande des grisons avec un peu de mimolette, c'est ça?
Vous allez nous écouter déguster cette recette qui m'a été soufflée par Stéphane tout à l'heure. Et vous voyez la réactivité, il m'en parle il y a moins d'une heure et incroyable. Il l'a maintenant devant lui dans une assiette. C'est quand même la magie de la radio.
Faire des courses,
exactement.
C'est des tranches fines. Alors, parce que c'est toujours en tranches fines.
Merci Stéphane quand même de m'avoir proposé une recette très facile. Plus simple que ça, on peut difficilement faire.
Vous allez voir, vous aurez beaucoup de succès.
Ah oui.
Et alors cette recette, je vais vous en parler, enfin je vais vous la décrire tout de suite. C'est un millefeuille de viande des grisons. Alors lui m'avait suggéré de prendre du comté, j'ai trouvé plutôt de la mimolette, mais ça marche tout aussi bien. Et donc j'ai pris une tranche de viande des grisons, une tranche de mimolette, une tranche de viande, et hop, et j'ai monté ça comme un millefeuille. Je l'ai coupé en petits cubes, et c'est vrai que ça marche très bien, parce que la viande des grisons est une viande un peu sèche, et le côté gras et moelleux de la mimolette fonctionne bien. Et puis il y a une jolie association de saveurs aussi, Stéphane, je tenais à vous tirer mon chapeau pour cette belle recette.
Pour une fois que je serai
vous serez
chose.
Premier à
voilà. Mais ouais. Alors, d'où vient cette fameuse viande des grisons que vous aimez tant? Eh bien, elle vient des grisons, et qu'est-ce que sont les grisons? Eh bien, c'est un canton.
Vous connaissez la liste de tous vos cantons?
Je connais juste Zouk. Attends, il y a quoi? Il y a
le canton de Vaud. Il y en a 22 quand même.
Bien sûr. On va Lucerne.
Alors, Basel-Stadt, Basel-Land.
On va connaître tous les cantons.
Genève, Vaud, Saint-Gallen, Appenzell. Il y a
Soleure.
Le Valais.
Mais est-ce que vous savez où se trouve celui des Grisons d'ailleurs?
Oui, bien sûr, les Grisons sur une carte. Bah, alors, vous prenez la ville de Berne, vous allez un peu plus à l'ouest,
comme par hasard,
en allant en direction de l'Autriche à l'est, et de, du Liechtenstein.
À l'est, à l'est.
À l'est, pardon,
c'est sud-est.
Sud-est, c'est à la frontière. Il y a
le Liechtenstein et l'Autriche
qui touche. Et là, vous avez les Graubünden en allemand, et c'est les Grisons.
On sent quand même qu'on y parle. Vous avez des comptes partout en Suisse, Stéphane.
Je porte mon nom.
Vous avez raison.
J'ai des origines suisses.
Dans ce canton, comme dans de nombreux endroits, on a eu besoin, à un moment où les techniques modernes de conservation de la viande n'existaient pas, d'utiliser des techniques plus simples. Alors, la viande des Grisons, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout d'abord de la viande de bœuf, ce qui est très important, d'une partie particulière du bœuf qu'on appelle le tende de tranche, qui est un morceau qui est très maigre et qui se situe dans la cuisse de l'animal. Et c'est vrai que c'est une viande qui est peu grasse et donc peu calorique. Comment elle est faite? Eh bien, tout simplement, c'est une combinaison de fumage, de séchage, difficile à dire. Et ensuite, on l'agrémente avec différentes épices ou avec différentes herbes, etc. C'est une appellation d'origine, une indication d'origine géographique protégée en Suisse depuis 2000. Et je peux même vous donner la recette pour la réaliser chez vous, parce que c'est pas très compliqué à faire, en fait. Alors, vous achetez un beau morceau de bœuf d'environ 2 kilos, tente de tranche, pourquoi pas, mais sinon on pourrait prendre du roast beef ou toute viande pas trop grasse. En un premier temps, on va la saler. Donc on va la mettre dans un grand récipient, on va faire un beau lit de sel bien épais, on pose la viande, on recouvre de sel, et là on l'oublie dans le frigo pendant 6 à 7 jours. À ce moment-là, la viande va s'imprégner. Elle va un peu sécher d'ailleurs, et si vous voyez qu'il y a du sang, parce que le sel va avoir tendance à extraire un peu le sang de la viande, ben vous le versez, vous laissez pas la viande baigner dedans. Ensuite, on la dessale pendant 24 heures dans un grand volume d'eau froide, en changeant régulièrement l'eau. On va la préparer, l'assaisonner. Alors le sel, ça c'est fait, hein, vous l'aurez compris. Donc poivre, un mélange d'herbes de Provence ou d'épices, comme vous le voulez. Vous roulez bien la viande là-dedans, vous la massez pour imprégner ces épices. On la roule dans un linge et on va la laisser sécher pendant un mois au minimum dans un lieu un peu frais, la buanderie, la cave ou le garage éventuellement. Et après, il n'y a plus qu'à en couper de très fines tranches pour réaliser cette délicieuse... pas une entrée, ce délicieux petit encas d'apéritif à la façon de Stéphane Bern.
Et ce qui est bien, c'est que souvent on dit qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Là, vous nous avez donné une recette qui prend un mois et 12 jours. Hein. Donc, c'est vraiment pratique quand on est comme ça, un actif comme ça, qu'on n'a pas trop le temps de cuisiner. Là, c'est vraiment hyper pratique.
Plus simple, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je suis parti de Rampin, j'ai traversé la rue, suis allé directement au magasin et j'ai acheté la tranche.
Mais d'ailleurs, peut-être. Oui, parce que c'est vrai que là, je vais garder devant vous, mais c'est dommage parce que. Mais prenez Stéphane.
D'abord, on sait ce que c'est, les ogres.
Qu'est-ce que vous en pensez alors de cette recette?
Moi je trouve ça excellent.
Vous l'avez déposé, Stéphane?
Non, pas du tout.
Vous avez pensé à faire un livre de cuisine un jour?
Oui, Simplissime.
Ah, comment ça?
Dans la collection Simplissime.
Ah bon, vous avez
recettes,
un livre dans la collection?
Les recettes royales Simplissime?
Oui, exactement.
Mais attendez, si vous le dites là, à mon avis, l'éditeur vous appelle demain. On peut annoncer la sortie pour l'été.
Oui.
Les meilleures recettes, Stéphane Bern, mes meilleures recettes, ça sera disponible cet été.
Je vais en prendre un peu.
Merci en tout cas, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et là, allez-y Stéphane, faites le placement avec dans la bouche la viande des Grisons.
Pour terminer, on va voir si vous êtes aussi gourmand avec l'histoire. C'est l'heure de la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Une question pour chacun.
Fais ta bouche, on t'a pas dit ça.
J'ai vidé ma bouche, mais je vais pas trop parce que c'est bien d'avoir la saveur de la...
Et puis c'est long en bouche, vous voyez.
Ouais, ouais. Alors... Olivier, histoire du PAF. Le jour où Patrick Poivre d'Arvor a présenté son premier 20h, il avait plus ou moins de 30 ans.
Il avait moins de 30 ans.
Oui, grave.
Il était très jeune.
Il avait 29 ans. Hein.
Ouais,
c'est beaucoup plus jeune. Pas c'est comme 39 ans, ça n'a rien à voir avec 40.
Ouais, c'est bien passé pour le savoir.
Il y a un monde qui sépare.
Mathieu.
Oui.
Val
Kilmer.
Kolpakov.
Non.
Et comme son nom ne l'indique pas, un dentiste américain. Il est l'inventeur du premier dentifrice qui promet aussi de blanchir les dents. C'est vrai ou faux?
C'est surtout qui tout double. Enfin,
je suis d'accord avec vous.
Alors, je vois. Ou alors, il a inventé un truc complètement débile qui n'a rien à voir. Ou alors, il a inventé le cure-dent, le fil dentaire. Non, je dirais que c'est vrai. Non, non, voilà.
Il se frotte les mains, les autres, parce que là, vous avez deux victoires d'avance.
Ah oui,
voilà, c'était pas de gagner.
On a forcément
non, un c'est un dentiste qui a le record de la plus grosse collection de tubes de dentifrice. Il en a 3000, voilà.
Mais plein ou vide ?
C'est ce que j'imaginais.
Au début, il avait commencé par la plus grosse collection de dents arrachées, et puis il avait passé au dentifrice. Voilà. David, la première fois qu'une grille de mots croisés est publiée dans un journal, c'est avant ou après 1900 ?
Mots croisés, je dirais avant.
Oh non ! C'est après, c'est en 1913 dans le New York World. Okay. Voilà.
Et bah, non, mais je tiens une victoire sèche.
Sèche comme la viande des grisons.
Ouais. Ouais.
Bravo.
Bah, bah, bravo. 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 Tourner, tiens, c'est pour moi.
Je pense on me dit tranche, dans mon oreille, c'était à New York, pardon. Oui, oui, c'était
ça à New York, pas précis, Los Angeles. Stéphane,
oui.
Tout à l'heure, Stéphane, au moment du premier quiz de l'émission, vous avez un peu mis en doute la qualité des questions.
Non,
vous m'avez dit
pas.
Que c'était pas vraiment l'histoire. Là, j'ai quand même une question sur un dentiste qui collectionnait les tubes de dentifrice.
Je suis d'accord.
Vous êtes d'accord ?
Un partout, d'accord. Alors. En tout cas, vous n'avez plus qu'une seule victoire d'avance sur le Belge qui...
Mais moi, j'en ai combien de retard ? C'est surtout ça.
18. Non.
Alors, beaucoup trop pour les rattraper avant la fin de la saison.
Non, mais non, je suis sûr que c'est pas vrai.
Ça, c'est pas vrai. Vous êtes à 2-3. Ils vous taquinent. Restez dans le match.
Ouais. Non, laissez tomber.
Historiquement vôtre, spécial ceux qui passent à Las Vegas, restent à Las Vegas, c'est fini. Messieurs, si on part du principe que vos moitiés n'écoutent pas Europe 1, donc tout à fait entre nous, est-ce que vous avez déjà fait des trucs à Vegas dont vous êtes content que ça soit resté à Vegas ?
Ah ben, j'y suis jamais allé, donc
c'est vrai
jamais.
Jamais.
J'y suis allé deux fois.
Oui.
Et seuls les murs des...
Oui,
des,
tu
des,
m'avais envoyé des, deux, trois textos, effectivement.
Ouais. Et moi, je suis allé une fois en 1995, j'avais donc 13 ans.
Ah, donc,
et j'ai même pas pu mettre une pièce dans une machine à sous, donc c'était très, très...
Tu n'étais pas allé avec ton microscope.
Non, malheureusement pas.
La bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on se retrouve demain. Et Stéphane, vous connaissez le programme.
Oui, on réunit trois dames qui tiennent la barre.
Intéressant.
Ah oui, comme vous dites. Alors, on réunit la reine Artémise à la barre d'un navire en pleine guerre dans la Grèce antique, puis la première femme appelée à la barre en tant qu'avocate, qui s'est battue pour exercer son métier pour les droits des femmes, aussi Jeanne Chauvin.
Et une star dans sa discipline qui tient la barre, fixe parfois les barres parallèles aussi, la gymnaste américaine Simone Biles. Je vous raconte son destin demain. Alors à demain Stéphane, à demain les amis.
À demain Mathieu, à demain les amis, à demain chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.